Profession reporter à présent avec vous, Éric Valmire, bonjour. Et une question ce matin, comment démêler les fils bien emmêlés du Brexit?
Et qui de mieux, Éric? Qui de mieux placé qu'Antoine Gignot, correspondant de Radio France à Londres, pour le faire? Avec la question de savoir si le sujet reste intelligible aux yeux des premiers concernés, c'est-à-dire les Britanniques.
Il y a une lassitude, une énorme lassitude quand on sort un micro dans la rue maintenant pour demander un avis, quel qu'il soit autour du Brexit. On a, et je vous mens pas, c'est la réalité, des gens qui partent en courant, hurlant « No, not the B word !» Pas le mot en B, pas le Brexit, plus personne veut en entendre parler. On est à saturation totale à 3 ans et demi, bientôt 4 ans, une fois qu'on aura eu les législatives après le vote du Brexit. Ce qu'on voit dans les sondages, c'est que la plupart de ceux qui ont voté pour sortir sont encore plus persuadés aujourd'hui qu'il faut sortir de l'Union européenne, que les Remainers, ceux qui voulaient rester, se sont lancés dans des mouvements pour réclamer un deuxième référendum, se sont investis dans des partis politiques. Là aussi, il y a un peu plus d'investissement. C'est surtout les jeunes, parce qu'on a une génération, 18-25, qui n'a pas forcément voté pour sortir en 2016 et qui aujourd'hui veut profiter de l'occasion et notamment des législatives qui arrivent pour essayer un peu d'inverser la tendance.
Vous, sur quels éléments vous vous basez pour rendre intelligible ce sujet aux auditeurs français?
Le plus important avec le Brexit, c'est de partir des causes. Et les causes, elles sont assez simples finalement. Elles se résument aux conséquences de la politique d'austérité qui a été menée par le Parti conservateur et qui a isolé un petit peu les campagnes, les provinces, les villes de province de Londres, la capitale cosmopolite où il y a de l'argent, où il y a des services publics. Il faut aller, par exemple, dans les Midlands, à Stoke-on-Trent, voir le manque d'accès aux soins, voir le manque d'accès à la culture, pour comprendre ce sentiment d'abandon, cette idée qu'on est coupé. Et ça s'illustre finalement assez facilement, en allant voir les gens, en comprenant pourquoi est-ce que la main-d'œuvre arrivée des pays de l'Est représente une vraie concurrence pour une partie des petites PME, pour les ouvriers qui s'inquiètent, pour aller voir du côté des pêcheurs, pourquoi est-ce que les quotas de pêche posent un problème, et du coup, on a une sorte de rejet global de Bruxelles. Tout ça, ça se fait en fait le plus loin possible de Londres. C'est ça la difficulté.
L'actualité anglaise en France est dominée depuis plusieurs mois par le Brexit, mais en Angleterre, est-ce aussi ce symptôme infomaniaque autour du Brexit?
Oui, c'est un peu le véritable souci. On n'a pas parlé de l'augmentation des crimes au couteau, on n'a pas parlé des difficultés du NHS, du service de santé qui a vu les urgences totalement saturée. On a des difficultés à mettre en œuvre des nouvelles dispositions commerciales. Tous ces sujets-là, qui sont des sujets absolument essentiels, les contrats des précaires aussi, les contrats zéro heure qui obligent une partie de la population à travailler sans savoir combien vous allez toucher à la fin du mois. C'est des choses qui devaient être à l'agenda, qui devaient être discutées quand moi je suis arrivé dans le pays en 2016, et ce sont à chaque fois des sujets qui sont passés totalement à la trappe à cause du Brexit. Et c'est là le véritable souci, c'est là la véritable lassitude des gens aussi aujourd'hui. C'est pas seulement qu'on nous a trop parlé du Brexit, c'est que le Brexit a tellement pris toute la place que le reste n'existe plus.
On nous annonce à chaque fois un D-Day qui se transforme vite en No D-Day. Le dernier, c'était cette semaine, le 31 octobre. Comment on explique ces échéances à rebondissement?
Ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, très honnêtement, tout le monde s'y perd entre ces accords qui sont conclus avec Bruxelles et qui sont après pas ratifiés par le Parlement, ou alors qui sont ratifiés mais pas de manière officielle, parce que c'est ce qui s'est passé sur le dernier accord. Boris Johnson arrive à obtenir un vote de principe au Parlement, vote qui est non legally binding. Ça veut dire qu'il n'est pas contraignant, ça veut dire que en fait, il n'a aucune valeur. Comment expliquer tout ça? Eh bien, en rappelant les échéances principales et en allant faire des allers-retours aussi avec Bruxelles. On travaille beaucoup avec Angélique Boin, qui est correspondante à Bruxelles, pour recouper les sources qui nous viennent des ambassadeurs, pour essayer de mettre en avant les principales étapes et pour expliquer finalement que tant qu'on n'est pas arrivé au dernier point de confrontation à l'Assemblée, puisque ce sont les députés qui ont le dernier mot, eh bien rien n'est fait. On l'a vu à plusieurs reprises depuis 2016, et moi je suis assez souvent obligé de dire aux rédactions, presque chaque semaine, attention, on peut présenter cette semaine comme une semaine décisive. En réalité, il va falloir attendre le vote définitif qui, finalement, effectivement, depuis 3 ans, n'est jamais le véritable vote définitif.
Antoine Gignot, donc, et ses propos. Antoine Gignot, le correspondant de Radio France à Londres, et cette chronique, profession reporter, elle est disponible également à l'air écoute sur franceinter.fr.